Allô, allô, ici Ciné Herry.
En 1970, le réalisateur italien Francesco Rossi met en scène et produit Uomini contro, les hommes contre. Cette production italo-yougoslave s'inspire du roman d'Emilio Lussu, Un anno sull'altipiano, un an sur les hauteurs, qu'il écrivit en 1938, après avoir participé au conflit en tant qu'officier de réserve. Plus tard, il se rendra surtout célèbre pour son opposition de la première heure au fascisme. Le film relate les combats menés après 1915 par l'armée italienne face aux troupes autrichiennes. En effet, cette année-là, l'Italie, jusqu'alors membre de la Triple Alliance, dénonce au mois de mai ce traité pour s'engager dans le conflit aux côtés des Alliés, mettant ainsi un terme à sa neutralité de fait. Ce sont donc finalement les partisans de Gabriel D'Annunzio qui l'ont emporté, face aux tenants d'une politique attentiste et non interventionniste. Dès lors, l'Italie se lance dans une longue série de batailles contre l'Autriche. L'objectif des patriotes italiens étant de réussir à intégrer la région de Trieste à la péninsule afin de parfaire l'unité italienne. Le propos du film est simple. L'action se déroule dans une zone montagneuse située près d'Asaggio, en Vénétie. Une importante position vient d'être perdue par la division du général Leone, incarné par le comédien français Alain Cuny. Cet officier supérieur, peu soucieux de la vie de ses hommes, leur ordonne de reprendre coûte que coûte cette colline de Montefiore. Bien que les moyens apparaissent à l'évidence insuffisants et que l'impréparation des troupes soit flagrante, ils s'acharnent à reconquérir cette place. Tandis qu'ils déclarent « Nous avons abandonné cette position parce que nous en avons reçu l'ordre », Rossi réalise un gros plan sur un soldat du rang qui murmure « 3 000 morts ». Et lorsque le général ajoute aussitôt « Mais nous allons la reprendre immédiatement, à tout prix !» Toujours au premier plan, le soldat conclut en soupirant « 5 000 morts ». Dans le froid, le brouillard, la neige, et sur un terrain montagneux, terriblement accidenté. Les combattants affrontent l'ennemi au son des trompettes du régiment. Baïonnette au canon, ils se dirigent droit vers l'artillerie autrichienne qui les accueille par un déluge de feu, tandis qu'on entend en voix off le général proclamer « Faites bien comprendre aux soldats qu'il sera plus cruel de vivre que de mourir. Ce champ de bataille sera notre tombeau ou le champ de nos exploits. Envoyés à l'assaut, alourdis par leurs énormes cuirasses de métal, tels des pantins désarticulés, les hommes se meuvent avec une très grande difficulté, devenus ainsi des cibles faciles pour les Autrichiens. Ils sont tous décimés. Cependant, une nouvelle offensive est décidée. Ces combattants italiens sont donc envoyés inévitablement à la mort par leur commandement. L'hécatombe apparaît telle que les Autrichiens les prennent en pitié. S'esquisse alors une fraternisation entre les deux camps. Devant ces pertes massives, les Autrichiens en viennent en effet à se sentir solidaires de leur sort et leur crient « Arrêtez! Arrêtez! Ne vous faites pas tuer comme ça! Retournez dans vos lignes! Arrêtez !» Le lieutenant Ottolenghi, incarné par le comédien italien Gian Maria Volonté, qui réprouve les ordres absurdes du commandement, et tente en permanence, mais en vain, de s'y opposer, reprend aussitôt cette consigne à son compte. Il intime par conséquent l'ordre à ses hommes de cesser le combat. Tandis que la caméra balaie un champ de bataille jonché de centaines et de centaines de cadavres, il hurle « Arrêtez, arrêtez, cette guerre de bataillons d'affamés contre des bataillons d'affamés !» Mais dans un silence sépulcral, comme en écho, le général proclame aussitôt « en avant, soldats de ma glorieuse division, en avant !» Et il fait tirer sur ses propres hommes. Le lieutenant Ottolenghi exhorte alors les combattants du champ de bataille de riposter en retournant leurs armes contre l'arrière. Relevez-vous et tirez, l'ennemi est derrière vous. Avant de s'écrouler mortellement fauché par son propre camp. Autant dire que le général Léon est haï et plusieurs scènes en portent témoignage. Lorsqu'il est par exemple désarçonné par son cheval et qu'il tombe brutalement, un soldat lui vient en aide. Mais ce dernier est vite roué de coups par ses camarades, car il fallait le laisser mourir, lui reproche-t-il. Interprété par l'acteur américain Mark Fretchett, le lieutenant Sassou s'est initialement montré favorable à la guerre. Il était des interventionnistes. Et il s'est montré très respectueux des ordres comme de sa hiérarchie. Il est toutefois devenu, progressivement, désabusé, amer, sans illusion, gagné par les idées pacifistes du lieutenant Ottolenghi, au point d'emmener plus tard le général inspecter la fameuse meurtrière 14 avec le dessein délibéré de le faire tuer par l'ennemi. De le faire plus précisément prendre pour cible par celui qui est qualifié par tous les soldats italiens de meilleur tireur autrichien de tout le front, celui qui ne rate jamais. Malheureusement, Sassou se désole qu'il n'en soit rien cette fois-ci, bien qu'il ait insisté. Regardez, regardez, regardez encore, regardez sur la gauche. En espérant que le général finirait par recevoir une balle mortelle. Lorsque le bruit erroné court qu'il serait mort, la nouvelle est fêtée joyeusement comme une délivrance par ses hommes, avant qu'il ne déchante et soit contraint de boire avec le dit général pour saluer le drapeau du régiment récemment décoré. Cependant, il ne s'agit aucunement ici d'une affaire de personne. Rossi prend soin, au contraire, de nous montrer que c'est bien l'institution militaire dans son ensemble qui conduit ces massacres et en porte la responsabilité. Peu importe qui l'incarne, la logique, le résultat, demeure toujours le même. Il s'ensuit plusieurs mutineries durement réprimé. Trois compagnies se mutinent. Le lieutenant Ottolenghi reçoit alors l'ordre d'un colonel de faire tirer sur les mutins. Mais il refuse. Des déserteurs, ou prétendus tels, sont abattus ou bien conduits devant une cour martiale. La juridiction mène des interrogatoires aussi caricaturaux qu'expéditifs, avant de les faire fusiller pour blessures volontaires. Les pelotons d'exécution succèdent aux pelotons d'exécution. Une scène montre tout le caractère dérisoire qui consiste à comparer les articles 92 et 137 du Code militaire. Devrait-on considérer, par exemple, que les soldats se sont mutinés face à l'ennemi et mériteraient donc une mort infamante, ou bien se sont-ils seulement mutinés en présence de l'ennemi? Mais à quoi bon argumenter, puisque les jeux sont faits, et la décimation systématiquement décidée par le commandement suprême? Ce film de Rossi souligne combien cette guerre de position se résume à un engrenage de carnages aberrants. dépourvue de toute rationalité stratégique. Une guerre de position gagnée par une folie meurtrière où un camp en vient à décimer ses propres forces dans une spirale mortifère. Il met aussi en exergue les injustices subies par des combattants obligés d'obtempérer face à l'impéritie de leur état-major. Une séquence s'avère emblématique à cet égard. Un jour, il est décidé que trois hommes doivent aller élargir le passage dans les barbelés de l'ennemi. Mais le problème se pose en ces termes. Si le brouillard persiste, les hommes ne peuvent voir les barbelés et donc intervenir avec efficacité. En revanche, si le temps s'éclaircit, les Autrichiens vont les prendre pour cible et les tuer. Sans compter que les cisailles qui leur sont confiées ne coupent rien du tout. Le résultat sera sans appel. Deux hommes seront tués pour rien. Pourtant, il sera ordonné une deuxième intervention. La boucle est bouclée lorsque le lieutenant Sassou rend visite à son capitaine, très grièvement blessé et soigné à l'hôpital. L'on entend alors en voix off le général proclamer. Ce matin, quand j'ai vu entrer dans notre cité nos soldats joyeux, accompagnés de fanfares sonnant allègrement, pleins de vie et de jeunesse, j'ai compris, et toute la population comme moi, que la guerre peut avoir de beaux attraits, de beaux et sublimes attraits. Malheureux est celui qui ne s'en rend pas compte. Il est beau de mourir pour la patrie. S'agissant des mutineries, la doxa sera une dernière fois réaffirmée à la fin du film de la manière la plus emblématique qui soit. Dans une scène d'anthologie, le général reçoit le lieutenant Sassou ainsi. Vous pouvez vous estimer chanceux, vous n'êtes pas encore mort. Il s'en étonne. Mais vous n'avez jamais été blessé? Non, mon général. Tiens, vous êtes officier dans ma division et vous n'avez jamais été blessé? Non, mon général, juste des égratignures. Mais non, je veux parler de blessures sérieuses, de blessures graves. Et Sassou de répondre, non, mon général. Léone, mais comment l'expliquez-vous? C'est extrêmement curieux. Aimez-vous la guerre? Je vous ai demandé si vous aimiez ou non la guerre. Quand on a connu la guerre, on n'a plus envie d'en parler. Dites la vérité, vous êtes pour la paix? On ne peut aimer la paix et bien faire la guerre. C'est à cause de vous que ces hommes ont refusé d'obéir. Les soldats, connaissant vos idées subversives, ont eu un comportement subversif. Un cas pareil ne saurait rester impuni. Et le général Léone ordonnera l'exécution de Sassou. Le film s'achève sur quelques notes d'une musique pleine de désespérance composée par Piero Piccioni. Elle a accompagné toute l'œuvre et a bien su rendre, elle aussi, l'impuissance de ces soldats ayant le choix entre la mort et la mort, quelle que soit la force de leurs aspirations pacifistes.